soir. Bonjour à vous qui nous rejoignez sur Internet et sur, la télévision. Avec mon épouse, on a regardé une bonne femme incroyable. 86 ans. La bonne du curé. Eh ben, dis donc, elle a la pêche encore. Hein. C'est incroyable. Ça donne... Hein? Elle a des soucis, elle aussi. Non, vous ne croyez pas? Elle n'a pas de soucis? Bien sûr qu'elle a des soucis. Mais, quelle pêche, quel enthousiasme. Ça fait du bien de voir des personnes comme ça. Aïe, aïe, aïe. 1 Corinthiens, chapitre 1. Chapitre 1, verset 25-29. Tout à l'heure, je cherchais des bouts de papier, j'en trouvais pas. Tu vois, maintenant, il y a plein qui tombent. C'est comme ça. Verset 25 à 29. La folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Je vous laisse réfléchir. Il n'y a pas parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Vendredi soir, je vous parlais de fait comme l'oiseau. Non, pas comme l'oiseau, comme le vent. Faites comme le vent. Le vent, il souffle où il veut. Et si vous n'avez pas écouté cette prédication, ben allez l'écouter, elle est sur Révélation Bible. .fr. Le vent souffle où il veut. Et un homme qui est né du Saint-Esprit et qui persévère, n'est-ce pas, à marcher selon les ordres du Saint-Esprit, c'est-à-dire de la parole, eh bien, il est comme le vent, il va où il veut. Et Dieu est toujours avec lui parce que un tel homme est avec Dieu. Puisqu'il est avec la parole, puisqu'il obéit à la parole, puisqu'il fait ce qui est dit dans la parole, ben Dieu est avec lui. Et si tu es avec lui, tout ce qu'il fait, lui, réussit partout où il va, n'importe où. Alors, je vous parlais vendredi soir de ce marchand de marrons que j'ai rencontré boulevard des Italiens. Et je ne vous ai pas tout dit sur ce marchand de marrons, parce que je voulais vous en garder un petit bout, pas de marrons, mais de l'histoire, pour ce matin. Bon, j'y ai parlé du Seigneur Jésus-Christ, et on ne voulait pas, visiblement. Alors, je l'ai écouté. C'est très bien d'écouter les gens. Très souvent, après, on peut se servir de ce qu'ils disent pour les emmener là où on veut. Et il m'a dit qu'un bon musulman a 5 obligations à observer pendant sa vie. Alors, il nous a énuméré. La plus importante, c'est de croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Je dis, on est d'accord. Ah bon, je dis oui. Quand on dit fils de Dieu, c'est Dieu qui s'est fait chair et... c'était nouveau pour lui, c'était extraordinaire. Deuxième, alors ensuite il me dit, la deuxième obligation, c'est de prier 5 fois par jour. Je dis, alors là, je suis battu. Et puis, la troisième, c'est faire le ramadan, le jeûne. Hein. Et ensuite, le devoir de venir en aide aux pauvres, d'aider les pauvres, la charité pour les pauvres. Et puis je voyais qu'il était ému pendant qu'il me disait ça. C'était vraiment un homme qui croit. Et il m'a dit qu'il s'efforçait de vivre ces choses de la loi musulmane et qu'il avait envie de me montrer que tous les musulmans ne sont pas des voyous. Il avait raison. Et il était très ému. Et malgré son émotion, qui commençait à me gagner un petit peu, parce que moi, quand je vois un homme de mon âge à peu près qui a les larmes aux yeux, ça me touche. Mais quand même, je suis suisse et je sais encore compter. Donc je lui ai dit, et la cinquième obligation, c'est quoi? Parce qu'il ne m'en avait donné que 4, le coquin. Alors, j'ai demandé le plus gentiment possible la cinquième obligation. Parce que vous savez, quand quelqu'un ne vous dit pas quelque chose, c'est qu'il n'a pas envie de vous le dire. C'est très malhonnête de lui demander, puisqu'il ne dit pas ce qu'il a envie de dire, mais là j'avais quand même envie de savoir. Oui. Il m'a dit, la cinquième obligation de tout bon musulman, c'est de faire un voyage, au moins dans, une fois dans sa vie, un pèlerinage à la Mecque. Et puis voilà, deux clients sont arrivés, donc ça nous a interrompu un peu, et puis ensuite il a continué, il m'a dit qu'il a économisé depuis longtemps, et puis il s'est dit, c'est peut-être préférable quand même que j'aie une assise ici, donc il s'est acheté une première machine donc, pour faire ses marrons, et puis ensuite, comme il a vu que ça marchait bien, il en a acheté une deuxième qu'il a offert à son frère, à son cousin, enfin vous savez, c'est, voilà, c'est la famille. Et puis finalement, il a, je ne sais plus combien, il a plusieurs personnes de sa famille à qui il a offert des machines à chauffer les marrons. Puis il touche un pourcentage dessus. Donc voilà, c'est un commerçant. Il est, voilà, ça marche pour lui et tout va bien pour lui. Et pendant les beaux jours, j'ai dit, comment tu fais? Parce qu'il me tutoyait. Alors, j'ai dit, comment tu fais? Alors il dit, les beaux jours, ben, c'est les glaces. Je fais les glaces. Il a des machines à glace. Il y a un peu moins de machines à glace parce que ça coûte un peu plus cher. Mais il a des machines à glace. Alors le temps passait. Il y a des clients qui arrivaient, on était interrompus. Et il me dit, chaque année, je vois mes amis, quelques personnes de ma famille, des connaissances, qui se mettent en route pour la Mecque. Et tous partent comme ça, les uns après les autres. Et puis quand ils reviennent, ils sont tout heureux. Puis ils placent sur leur porte le symbole de leur pèlerinage, du pèlerinage qu'ils ont fait. Et voilà. Alors j'ai demandé, vous alors, pourquoi vous n'allez pas à la Mecque? Alors là, il m'a scotché. Je dis, ça c'est quelque chose. Il m'a dit, parce que c'est la Mecque qui me tient en vie. C'est ce qui me donne la force de supporter tous les jours toutes ces niaiseries, ce train-train quotidien, toutes ces choses qui se ressemblent. Tu vois, j'ai peur de réaliser mon rêve, il me dit, parce que j'ai peur qu'une fois réalisé, je n'ai plus rien qui m'aide à continuer à vivre. Tout le monde rêve pas pareil. Hein. Il dit, moi, tout ce que je veux, c'est de rêver de la Mecque. C'est de rêver de la Mecque. Ça m'a fait penser un petit peu à moi quand je disais, moi, je veux pas aller en Israël parce que je veux pas voir... les taxis, les bus, je ne veux pas voir les antennes de télévision sur les maisons, moi je veux m'imaginer Jérusalem comme c'était du temps de Jésus, je ne veux pas voir des Japonais en short devant le mur des Lamentations, je ne veux pas voir ça, je veux garder mon idée de... Mais finalement, j'y suis allé grâce au frère et à la sœur Alaman et on est allé avec Michou, c'était merveilleux. Et lui, son rêve, c'était la Mecque, mais au fond, il avait peur que, arrivé là-bas, ce soit une immense déception, et que donc il préférait en rêver. Mon frère, ma sœur, quelle sorte de rêveur es-tu? Souviens-toi toujours de savoir ce que tu veux, parce que le vent, il souffle où il veut. Il n'est pas là comme ça. Il bouge tout le temps. Le vent, il souffle où il veut. Et si tu sais ce que tu veux, alors tu te déplaces dans le sens où tu veux et tu travailles dans le but que tu veux atteindre. Tu te bouges et la Bible dit, Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Vous savez, pourquoi est-ce que le signe de la prière, c'est les mains jointes? Parce que les mains jointes, avec les mains jointes, on ne peut rien faire. Alors on s'en remet à Dieu, mais il y a un moment où il faut arrêter, puis il faut les ouvrir, puis il faut se bouger, il faut faire pour pouvoir atteindre notre rêve. Alors avec Michou, nous avions un rêve, une vision, dans les années 76-17, c'était de créer une communauté, et puis créer une église, organiser le plus près possible du modèle d'acte 2, acte 4, et bon, voilà, on avait un modèle, mais ça ne me plaisait pas vraiment, mais quand même c'était un modèle qui avait, il y avait des choses très inspirantes dedans, et donc on a fait ce qu'il fallait, on a acheté une maison assez grande, 11 pièces, je crois qu'il y avait, à Sarcelles, avec un couple, et on était très enthousiastes. Alors, on faisait terriblement confiance. Ça faisait 12 ans qu'on était ensemble, on faisait confiance. Et puis au bout de 2 mois, ils nous ont laissé tomber parce qu'ils ne voulaient pas élever leurs enfants avec des gens comme Dominique Boisset, Edith Ruiz et Lisa Siche, qui étaient à leurs yeux des malades mentaux. Ils n'en voulaient pas. Ça nous a brisé notre rêve. Comme on avait acheté en indivise, on était foutus, on était ruinés. Et ça ressemblait à une malédiction. C'était comme si le diable me disait, t'es pas digne de faire une chose comme ça. Tu te prends pour qui de faire une chose comme ça? Alors Michou et moi, on a prié. Et Dieu nous a appris que ce n'était pas une malédiction, mais que c'était une bénédiction. C'était une bénédiction, mais il fallait que nous l'acceptions comme telle. Il fallait que nous acceptions cette chose qui ressemblait à une malédiction, il fallait que nous l'acceptions comme une bénédiction. Cette bénédiction, elle était une réalité, mais qui ressemblait à une malédiction. En fait, j'ai compris là que toute bénédiction qui n'est pas acceptée se transforme en malédiction. C'est ça le problème. Parce qu'un enfant de Dieu réellement rempli de l'Esprit, il sait que tout, absolument toute chose, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Et moi, je me croyais appelé. Et j'aime Dieu. Donc, ce qui ressemblait à une malédiction, en fait, c'était une bénédiction. Je vous l'ai dit souvent, les problèmes sont des bénédictions déguisées. Vous voyez, sans ce couple qui nous a trahis, qui nous a laissé tomber, eh bien, nous n'aurions jamais pu évoluer au point d'acheter ensemble le château dans lequel nous vivons depuis presque 25 ans. Ça aurait été impossible. Ce couple était gentil, c'était charmant, mais alors, je ne sais pas s'ils m'écoutent, là, les pauvres, tant pis, je ne pense pas qu'ils m'écoutent, ils s'en fichent. Mais, mon Dieu, comme inerte, on ne faisait pas mieux. Même pour faire un tract, pour aller distribuer dans la rue, on avait mis 6 mois pour concevoir le tract, c'était dur. Parce que c'était toujours ni ni gna gna, gna 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 gna. Et ce qui nous arrive maintenant, eh ben c'est aussi une bénédiction, parce que ça va permettre de multiplier la communauté. Ça va permettre de multiplier. Certains vont continuer ici et être bénis parce qu'ils croient en Dieu, parce qu'ils sont appelés selon son dessein, et d'autres vont aller dans un autre endroit avec une vision un peu plus élargie. Et ils vont aussi être bénis parce qu'ils croient en Dieu, et puis parce qu'ils sont appelés selon son dessein. Qui sommes-nous pour juger si l'autre est appelé ou pas? Ce qui est arrivé, c'est une bénédiction pour moi. Mon départ est une bénédiction pour vous. Il faut prendre ça comme ça. Vous voyez, la vie, Jésus, la vie nous enseigne ces choses, mais ça ne suffit pas qu'il nous l'enseigne. Encore faut-il que nous l'apprenions. Ça, c'est terrible. L'intégrer. Alors, comme je vous l'ai toujours dit, dans le monde, il y a un langage qui est compris de tous, c'est le langage de l'enthousiasme. Hier, je voyais l'autre, là, avec « Stantagader, Stantagadara, tic !» Mon Dieu, elle réveille les morts, cette bonne femme. Elle a un enthousiasme pour des bêtises. Et nous, qui avons le plus beau message du monde, on ne serait pas enthousiaste? C'est un langage formidable, l'enthousiasme. C'est le langage des choses qu'on fait avec amour, le langage des choses qu'on fait avec passion, en vue d'un résultat qu'on souhaite obtenir, dans lequel on croit. Alors, on bouge, on se met dans la lumière et on le fait. Quand Jésus dit « tout est possible à celui qui croit », il dit aussi « toute chose, même celle qui semble mauvaise, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein ». C'est ça que ça veut dire. Alors, pauvre marchand de marron. En tout cas, moi, je ne suis pas du genre à ne pas aller où je veux et à rester simplement avoir l'envie d'y aller sans aller. En fait, quand je suis parti en Inde, c'était aussi comme ça. Tout le monde m'a dit, mais Michel, il ne faut pas. Est-ce que tu as prié? Non. Tu n'as pas demandé à Dieu si c'est sa volonté? Non. Oui, mais t'es fou, c'est dangereux. Ils sont allés vers ma femme qui était à l'hôpital. Mais Michou, tu te rends compte, il ne faut pas épouser cet homme-là. C'est un malade. Et quand je suis arrivé en Inde, Dieu, alors que j'étais allongé sur un lit, je ne dormais pas, m'a dit, va dire à tes frères que tu n'as fait que ce que je t'ai demandé de faire. Il ne m'a rien demandé. Sinon, dans la Bible, aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. À mon avis, l'Inde, c'est aussi le monde, non? Bon, ben, j'avais donc raison d'y aller. Le vent, il souffle où il veut. Voilà. Et c'est la même chose pour un homme de Dieu, qui est vraiment un homme de Dieu. Pauvre marchand de marrons, passif, fataliste, priant 5 fois par jour, jeûnant, enfin, ne pratiquant que 4 ordonnances sur 5. Un homme né de nouveau, il tient l'ourim et le thummim dans son cœur, mes frères et sœurs. C'est-à-dire que dans son cœur, il entend le oui ou le non de Dieu. Il l'entend. Il entend les chuchotements de l'esprit. Vous voyez, les décisions, elles ne consistent, elles ne représentent en fait que le commencement de quelque chose, une décision. Il faut décider, je veux ça. C'est le commencement. Quand vous prenez une décision, qu'est-ce qui se passe? Sur le plan spirituel, quand vous prenez une décision, vous plongez dans le courant impétueux du vent qui a soufflé où il voulait le jour de la Pentecôte. Voilà ce que vous faites. Quand vous êtes un homme, une femme de Dieu, et que vous prenez une décision, vous plongez dans ce vent-là. Et vous êtes pris dans le vent du Saint-Esprit. Et vous allez être conduit vers la destination, vers votre destinée. Mais quand faut-il prendre une décision? Je veux ça. On en a vu des châteaux, hein, la Michou. Mais quand j'ai vu celui-là, j'ai dit, c'est celui-là que je veux. On s'est battu tous ensemble, 8 mois, on l'a vu. Quand on veut, on peut. Quand j'ai commencé à chercher, donc, j'y allais seul. Pourquoi? Parce que c'était surtout mon rêve. Et je ne voulais pas me laisser influencer par les choses négatives. Oh, mais Michel, tu sais, ceci, tout. Non, je voulais voir moi d'abord. Puis après, je vais emmener plusieurs autres. Mais j'aurais jamais imaginé que ce château naîtrait l'association C'est Faisable, qui a nourri des milliers de personnes en Afrique, des milliers, et pas seulement une fois. Rappelez-vous quand il y a eu cette inondation immense et que l'association C'est Faisable a nourri 800 personnes pendant un an. Et puis ça continue, chaque année, il y a des choses, soit des sécheresses, soit des inondations. On donne du travail à des dizaines de personnes, c'est une œuvre bénie de Dieu. On soutient des écoles, on soutient un orphelinat, on a aidé à payer des terrains cultivables, et ça donne, on vient d'offrir une pompe. C'est une œuvre bénie, et vous êtes bénis, vous qui êtes fidèles et qui continuez à donner. Je ne dis pas que les autres sont maudits. Mais bon, c'est dommage pour vous. De toute façon, l'œuvre de Dieu, elle se fait. Avec ou sans vous, elle se fait. Dieu va toujours au-delà de ce qu'on demande et de ce qu'on ose imaginer, nous dit Éphésiens 3, 20. Eh bien, il est allé au-delà même de ce qu'on imaginait. Au-delà. Avec cette histoire-là. Je vous parlais de Melchisédek l'autre jour. Le roi Melchisédek a parlé à Abraham. Mais il ne faut pas oublier qu'Abraham, c'est un berger. Ah bon? Un roi qui parle à un berger. Mais il ne faut pas oublier non plus que c'est les bergers qui ont été les premiers à aller rendre hommage à un roi que le reste du monde refusait de connaître. Les rois et les bergers. Et nous, pour les Africains, mais nous sommes des rois qui aidons des bergers. Hein, Nicolas, c'est un petit berger au début. Tout petit, hein, mais il a bien grossi. Mais ces bergers m'ont beaucoup appris. J'ai beaucoup appris à leur contact au sujet des choses de la délivrance, au sujet de ces choses-là, de comment... J'ai beaucoup appris avec eux. On sait toujours. Abraham a été béni par Melchisédek, mais Melchisédek a été aussi bien béni par Abraham. C'est toujours un échange. Il faut toujours les deux, l'ourim et le thummim, le roi et le berger. Il faut toujours les deux. Et au milieu, ce qu'il doit y avoir, c'est un cœur qui sait écouter. Un cœur qui sait écouter. L'ourim et le thummim révèlent toutes choses, mais ils doivent être écoutés ensemble. Rappelez-vous de ce roi qui n'a pris qu'une des deux pierres. C'était pas la bonne façon de faire. Il y a des techniques, il y a des codes, il ne faut pas les ignorer. Et il a ignoré, il a payé le prix, il en est mort. Ne pas écouter un roi dans son royaume, ça signifie la mort. Ne pas écouter un berger dans le désert, c'est aussi la mort. Il faut savoir écouter. L'Éternel est mon roi, mais il est aussi mon berger. Celui qui s'engage dans le désert entre l'Égypte, c'est-à-dire le monde, et le ciel, il promet de ne pas revenir en arrière. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, sur ta confession de foi, je te baptise, tu t'engages. Et quand on ne peut pas revenir sur ses pas, on ne doit se préoccuper que d'une chose, c'est de la meilleure manière d'aller de l'avant. Le reste, ça regarde Dieu. Mais aller de l'avant, une fois qu'on est en marche, il nous guide à gauche ou à droite, et y compris des fois dans le danger. Mais il nous protège. Le principal, c'est de bouger. Parce que ce qui fait bouger toute chose, c'est le désir. Recommande ton sort à l'Éternel et il fera tout ce que ton cœur désire. Mes frères et sœurs, Dieu nous a placés sur cette terre comme le couronnement de sa création. Enfin, on se demande si c'est bien vrai quand on voit certains hommes, certaines femmes, enfin bon, c'est à cause du péché et tout ça. Mais Dieu nous a placés sur cette terre comme couronnement de sa création. Mais il faut quand même rester humble. Il faut que nous nous souvenions que tout ce qui est sur terre et sous terre ne cesse de se transformer, tout le temps. Ça se transforme. Pourquoi ça se transforme? Parce que la terre est un être vivant. Vous savez ce que ça veut dire, être vivant? Le mot religieux de être vivant, c'est quoi? Âme. La terre a une âme. Et nous sommes une part de cette âme, puisque nous sommes tirés de la terre. Et cette âme, elle ne travaille jamais contre elle-même. Et même ce qui se perd, en fait, ça ne se perd pas. Ça se transforme. Si nous respectons l'âme de la terre, si nous la respectons, si nous respectons ses règles, les codes, les cycles et toutes ces choses, eh bien, elle travaille en notre faveur. Car les choses sont les manifestations d'une seule chose, Dieu, le créateur de tout ça. Ça n'en est que la manifestation. Alors, les francs-maçons se sont attribués une phrase, mais qui n'est pas à eux, elle vient de la Bible, bien qu'elle n'y ait pas écrite, mais elle est écrite sous une autre forme. Ils disent, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. En fait, ils se sont attribués ça, mais ça ne vient même pas d'eux, ça vient de la table d'émeraude, mais ça, c'est une autre histoire. ils s'attribuent beaucoup de choses. Nous avons un texte ancien, c'est celui de Jésus qui dit, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » C'est une prière. Et Jésus a fait cette prière. Et cette prière, elle est maintenant exaucée. À nous de manifester ce qui est au ciel, sur la terre. Elle est exaucée, cette prière. Maintenant, elle est faisable. Mais c'est à nous qui sommes là, remplis de l'Esprit, d'exaucer cette prière et de manifester ce qui est au ciel, sur la terre. Tout ce qui a été fait par lui et pour lui, nous dit Colossiens. Maintenant, à nous de manifester qu'il n'y a pas de division dans la lumière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de division même entre l'eau et le feu. Il n'y a pas, parce que tout vient de lui. Mais ça reste très difficile d'accès à cause des sentiments, des émotions, de l'orgueil et toutes ces choses. Et puis aussi, il ne faut pas que ça soit compris par tout le monde. Il faut que ce soit les gens responsables qui comprennent ces choses-là, parce que sinon c'est de la panique. C'est pourquoi Jésus dit tout le temps que celui qui a des oreilles entende. Parce que essayez d'imaginer que tout le monde puisse avoir le pouvoir de faire bouger les montagnes. Vous vous rendez compte un petit peu l'histoire? Le matin, vous trouveriez avec une montagne devant votre fenêtre. Ça serait la panique, le désordre, le chaos. Parce que le cœur de l'homme est dans le péché. C'est pourquoi il faut régler cette affaire. C'est pourquoi Jésus aime ceux qui sont opiniâtres à chercher, ceux-là, ils trouvent. Et les choses sont immenses. La sagesse est immense. Et Et je regardais ma Bible hier, je disais, c'est quand même vexant que le Nouveau Testament soit plus petit que l'Ancien Testament. Des fois, j'ai des réflexions bêtes comme ça. Puis après, je me dis, mais on peut encore réduire tout ça à plus simple. En fait, cette immense sagesse, elle ne se contient, elle peut se contenir dans 37 pages, les 37 pages de l'Évangile de Matthieu. Vous vous rappelez, je vous avais fait les commandements, les impératifs de Jésus dans Matthieu. Tout est contenu là, dans 37 pages. Et il y en a des bouquins. Il n'y a que ces 37 pages-là qui sont vraiment... Enfin, je ne dis pas que tout le reste de la Bible n'est pas bon, mais tout le reste de la Bible ne fait que reprendre ces choses. Mais c'est tellement immense et nous sommes tellement petits, alors il arrive que, comme un homme dans le désert, on avance 100 fois. C'est-à-dire qu'on avance, on met un pas devant l'autre et puis on continue. Une chanson qui dit ça, hein, c'est « Dans la troupe, il n'y a pas de jambes de bois ». C'est ça, hein. Il y a des nouilles, mais ça ne se voit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un uniforme. Ce qui compte, c'est de continuer, c'est de continuer. Et quand on continue, on trouve un oasis et la foi revient. Dans la traversée du désert, l'homme de foi, il sait qu'il ne peut pas lutter tout seul. Alors, bien sûr, Dieu est là, mais Dieu l'a créé pour avoir une communion fraternelle. Alors, il a besoin d'entendre la voix de ceux en qui il a confiance, il a besoin de discuter de stratégie pour arriver jusqu'à son but, il a besoin de demander de l'aide, il a besoin d'entendre les conseils d'hommes et de femmes plus sages que lui, ou même d'enfants plus sages que lui, des fois, ça arrive. Hein? Eh oui. Mais il ne laisse pas les gens confondre sa camaraderie avec un manque d'assurance. Ce n'est pas un manque d'assurance. L'homme de foi qui traverse le désert, il sait où il va. Il peut des fois être un petit peu paumé, mais il sait où il va. Il est transparent dans ses actions, mais il est secret dans ses projets. Parce qu'il y a ce vieux français qui dit, ce vieux proverbe français qui dit, les murs ont des oreilles. Alors il danse avec ses compagnons, mais il ne délègue à personne la responsabilité de ses propres pas. C'est lui qui mène la danse. Mener la danse. Il aime la paix, mais il n'aime pas la paix des cimetières. L'homme de foi, il sait que Jésus connaît tout de lui et il ne veut pas s'entendre dire un jour « Tu n'as été ni froid ni bouillant ». Alors il continue d'agir, parce que cette peur d'être vomi par Dieu, il l'utilise comme un moteur, non pas comme un frein. Il y a des gens, ils ont peur, alors ils disent, moi je ne bouge pas, comme ça, moi je ne ferai pas de bêtises. C'est l'homme qui a enterré son talent, qui dit, Seigneur, je sais, que ta volonté soit faite avec ce talent. Un miracle, Seigneur, pour ce talent. Non, j'ai peur de, en soi, je préfère une bêtise. Je mets tout entre tes mains. Il a l'air humble, il est bête. C'est pas comme ça que Jésus veut que nous soyons. L'homme né de nouveau, il fait comme le vent, il continue, il va où il veut, il souffle. Il ne se laisse pas intimider par le silence, il ne se laisse pas intimider par l'indifférence, il ne se laisse pas intimider par le rejet, parce qu'il sait que le silence c'est du diable. Ça je vous l'avais dit à Bao. Vous vous rappelez de ça? Il y avait une qui boudait tout le temps. J'ai dit Dieu est la parole, le diable est le silence. Il ne se laisse pas intimider par le silence. Le silence ment. Il semble dire, le silence, ben, tu vois, tout est calme, ça va bien, tu peux te reposer, va t'amuser un moment, change-toi les idées, hein? Ça va, regarde, il n'y a plus de bruit, ça va bien maintenant. Mais l'homme du Saint-Esprit est attentif au silence parce qu'il sait que quelque part, quelque chose est en train de grouiller. Mais il n'a pas peur, parce qu'il croit. Il croit dans les miracles, il en a tellement vu. Alors les miracles commencent à se produire. Tous ceux qui croient savent ça. Alors il continue à faire comme il veut et il va où il veut. Bien sûr, il lui est arrivé de pécher et ça lui arrive encore. Et s'il fallait qu'on se jette des pierres les uns les autres, on n'aurait pas fini. Il faudrait organiser des réunions de lapidation, n'est-ce pas ? On pourrait faire un commerce avec ça, on pourrait vendre les pierres. Et j'ai des bonnes pierres pointues. Il nous arrive de pécher, mais l'homme qui est rempli de l'esprit, il en est conscient. Les autres aussi sont conscients qu'il a péché. Alors, il s'arrête, l'homme de l'esprit qui a péché, et puis il écoute les quatre commentaires du démon, parce qu'il faut aussi écouter de temps en temps le démon. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit celui-là? Il dit, t'as toujours commis des erreurs. Hein? Puis maintenant, t'es trop vieux pour changer, c'est fini maintenant. T'as pris les plis, c'est fini. De toute façon, tu sais bien dans ton cœur que t'es pas bon. Au fond de toi, tu sais bien que t'es pas bon. Et puis là, ton rêve. Avec tous les péchés que t'as fait, mais tu le mérites pas. Hein? Tu le mérites pas. Alors on frémit, parce que quelque part, on sait que c'est vrai. On sait que c'est vrai. C'est vrai en bas. Mais l'homme rempli de l'esprit sait que c'est faux en haut. Et il faut que ce qui est en haut soit comme ce qui est en bas. Et il faut que ce qui est en bas soit comme ce qui est en haut. Et il choisit ce qui est en haut plutôt que ce qui est en bas. Il faut un grand coup de pied aux paroles du diable. Et il écoute les paroles du ciel maintenant. Les paroles de Dieu qui lui dit, tout le monde commet des erreurs. Tu es pardonné, souviens-t'en. Par contre, il y a une chose que je ne peux pas faire, te dit Jésus. Je ne peux pas te pardonner malgré toi. Alors décide-toi de te pardonner. Pour que les autres ne te pardonnent pas, ça, laisse-moi m'en occuper. Alors l'homme né de nouveau, le véritable soldat du roi des rois, il accepte. Il accepte le pardon, il accepte ce marché, il accepte. Et il est d'accord avec ce plan. Et alors il cherche à s'améliorer. Parce qu'il se sait digne de confiance. Dieu lui fait confiance. Alors, qu'est-ce que ça peut faire que les autres ne lui fassent pas confiance? Si Dieu lui fait confiance, bon, qu'est-ce que ça peut faire que les... Ça ne le touche plus. Voilà mes frères et sœurs. Je ne peux pas vous le dire mieux. Je vais essayer peut-être, mais... Ça m'étonnerait. À la fin de chaque prédication, je me dis, bon voilà, je crois que c'est la dernière parce que je crois que je ne peux pas dire mieux là. Mais quand le chandelier aura changé de place, vous pourrez réécouter ces choses sur Révélation Bible et puis vous verrez que je vous aime et que j'essaie de vous convaincre. N'essayez pas d'être toujours cohérent. Paul n'a-t-il pas dit la sagesse du monde, c'est une folie aux yeux de Dieu? Ne soyez pas toujours cohérent. Être cohérent, c'est porter toujours la cravate qui est assortie aux chaussettes. C'est être obligé d'avoir demain la même opinion qu'aujourd'hui. Et puis alors le mouvement du monde, il est où? Et alors le vent, il est où? Et les marées qui montent et qui descendent, elles sont où? Et les saisons qui bougent, elles sont où? Elles sont où? Ah, mais moi, je suis cohérent. J'ai toujours les chaussettes qui vont avec les cravates. Vous avez le droit de changer d'avis de temps en temps. Vous avez le droit. Peu importe ce qu'en vont dire les autres, de toute façon, ils vont dire. Peu importe ce qu'ils vont penser, de toute façon, ils vont penser. Mais vous avez le droit. Alors détendez-vous, respirez un bon coup, et puis laissez l'Esprit de Dieu se mouvoir en vous. Découvrez la joie de vous surprendre vous-même. N'oubliez pas, Dieu a choisi les folies du monde pour faire honte aux sages. Le moment n'est pas encore venu des comptes, mais on approche. C'est pas le moment de fléchir. Ne nous divisons pas. Multiplions-nous. C'est faisable. Même sans votre soutien financier, c'est faisable. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus de bénir ces paroles. Fais ce que tu veux dans le cœur des gens. Que ta volonté soit faite, mon Dieu. Merci, Jésus. Amen.
On va chanter.